Bonjour, nous recevons aujourd'hui Kate Derrick et Anna Roche qui étudient les chauves-souris au sein du groupe Chiroptère Corse.
L'invité de la semaine au micro de Philippe Jam. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsega International.
Bonjour, nous allons parler chauves-souris aujourd'hui sur notre radio avec le groupe Chiroptère Corse et ses représentantes, Kate Derrick. Bonjour Kate.
Bonjour Philippe.
Bonjour Anna Roche.
Bonjour Philippe.
Chiroptérologue, l'une est chargée d'études en acoustique et de communication, Kate, et Anna, elle, est chargée de mission. Alors un petit peu avec vous, l'historique de ce groupe, Kate.
Oui, alors le groupe Chiroptère Corse, on est une association de protection de la nature et surtout des chauves-souris. On existe depuis maintenant plus de 30 ans. On est basé sur Corté, mais on travaille sur toute la Corse. Donc on a plusieurs missions. On a d'abord l'étude des chauves-souris. Donc on essaye de connaître au mieux les 22 espèces qu'on a en Corse. Connaître comment elles vivent, leur comportement, bien les suivre. Et le but, c'est de les protéger. Donc on ne peut pas protéger quelque chose sans l'étudier. Donc justement, le but de l'étude, c'est pour ensuite protéger les populations. Et puis on a bien sûr un volet sensibilisation du public. Donc c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui, bien sûr. Mais on fait aussi des soirées grand public. On intervient dans les écoles. Donc c'est une association qui a beaucoup de missions, oui. Mais qui sont toutes complémentaires pour protéger les chauves-souris.
Ah, vous parliez de 22 espèces, dont une endémique en Corse.
Tout à fait, oui. On en avait déjà parlé justement.
Petite.
Oui. Ah oui, elle est assez petite, oui. Donc c'est le murin de Corse, oui. On aura la publication de l'article qui sortira cette année, donc on pourra enfin l'appeler par son nom officiel. Mais oui, on a notre espèce qui est endémique et qui est malheureusement rare, donc on essaie de la suivre comme on peut. Mais c'est une espèce qu'on a qu'en Corse, oui.
Comment vous avez eu cette passion pour les chauves-souris? Parce qu'en principe, ça fait peur aux filles, les chauves-souris. Ça s'accroche aux cheveux.
Ah oui, moi j'ai jamais eu peur des chauves-souris, malheureusement. J'étais élevée avec un peu un amour pour les animaux et moi j'étais toujours intéressée par les mammifères. Donc moi, les passions des chauves-souris, c'est surtout venu avec un stage que j'ai fait où j'ai découvert les chauves-souris en Picardie. Et c'était le coup de cœur en fait. Donc une fois qu'on aime les chauves-souris, malheureusement, on est un peu coincé, hein, on a envie de faire ça toute notre vie.
Anna, cette passion pour les chauves-souris, comment est-elle venue de votre côté ?
Et j'ai eu la chance de faire un stage au groupe Chiroptère Corse aussi il n'y a pas très longtemps et j'arrive plus à en partir maintenant.
Alors vous êtes chargé de mission et il y a un projet justement en ce moment sur le groupe, c'est le projet sur les trames vertes, bleues et noires. Alors expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que c'est.
Ah oui, tout à fait. Donc là, on mène depuis maintenant un an un projet donc, de trames vertes et bleues turquoise et noir, spécifique sur les chauves-souris. Donc l'objectif, en fait, c'est d'étudier des zones de déplacement des chauves-souris sur un territoire. Donc en fait, on étudie des réservoirs de biodiversité. Donc c'est des zones où il y a beaucoup de chauves-souris, où les mamans se regroupent ensemble pour élever leurs petits. Et en fait, les mamans vont réaliser des trajets qu'on appelle des corridors écologiques pour rejoindre leur zone où elles vont manger, en fait, comme des grands supermarchés. Et donc on appelle les différentes couleurs, donc la trame verte pour étudier tous les milieux qui sont terrestres, la trame bleue pour les milieux aquatiques, les rivières, les zones humides, et ensuite donc la trame turquoise qui est en fait l'interface entre les deux zones, donc par exemple des zones agricoles à proximité de cours d'eau, et ensuite on parle de la trame noire pour étudier justement la pollution lumineuse qui peut être présente sur ces zones de déplacement.
Il y a beaucoup de colonies, hein, Kate, je crois, sur la région.
Oui, il y a pas mal de colonies, bah, surtout qu'on suit depuis 30 ans. Hein, donc ça dépend des espèces. On a des espèces...
Vous avez recensé déjà les deux?
Tout à fait, oui. Ça continue toujours. Il y a certaines colonies qu'on trouve toujours. Hein, heureusement, c'est un peu ce qui est plaisant dans ce travail, c'est qu'on trouve toujours de nouvelles colonies. Souvent, c'est avec les personnes qui nous appellent sur le hotline SOS Chauve-Souris. On peut trouver des colonies comme ça, ou tout simplement, c'est en découvrant au hasard. Mais on a certaines colonies qu'on suit depuis plusieurs années. Et malheureusement aussi, on a des colonies qu'on perd. Et c'est quelque chose qu'on se rend compte de plus en plus, notamment l'espèce phare de ce projet TRAM, le murin des Capacines. Et on se rend compte qu'on est en train de la perdre. Donc malheureusement, heureusement qu'on est là en fait pour suivre ces colonies. Sinon, on ne le saurait pas. Mais c'est quelque chose qui peut être assez désolant des fois. Oui, on a des colonies qu'on suit depuis plus de 20 ans. Et un jour, on visite et on se rend compte qu'il n'y a plus personne. Et c'est à nous du coup de se demander pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire.
On parle souvent des chauves-souris, on en a peur, mais c'est pas vraiment un animal nuisible pour l'homme.
Absolument pas. Elle n'est pas nuisible. Justement, elle est très utile pour l'homme. Nos chauves-souris, elles sont toutes insectivores. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Mmh. Donc, on n'a pas de chauves-souris vampires ici. on n'a pas de frugivores non plus. Elles sont très diversifiées dans le monde, mais nous, on n'a que les espèces insectivores. Donc, pour nous, surtout en Corse, les moustiques nous embêtent quand même pas mal sur la terrasse l'été. Donc, les pipistrelles, il faut savoir, elles peuvent manger le tiers de son poids chaque nuit. Donc, son tiers de poids en moustique, c'est pas trop mal. C'est bien utile pour nous. Et donc, elle régule ces populations d'insectes, ce qui fait qu'on a moins de maladies qui sont liées aux insectes. Et surtout, quelque chose aussi qui nous intéresse beaucoup en ce moment, qu'on commence à étudier, c'est le fait que les chauves-souris sont des auxiliaires de culture. Donc, tout ce qui est petits papillons qui vont pondre sur les cultures, tout ce qui est petites mouches, elles mangent ça aussi. Donc, elles régulent vraiment ces populations-là. Donc, c'est intéressant de garder une population de chauves-souris, de les aider au mieux, pour pouvoir gérer ces populations d'insectes, plutôt que de mettre des pesticides.
Bien sûr. On a une idée du nombre de chauves-souris en Corse ?
Du nombre de chauves-souris, ça dépend vraiment des espèces. Donc, on a 22 espèces, et puis ça dépend lesquelles. Par exemple, les capuchines, je ne sais pas combien on a d'individus au dernier recensement.
On est à moins de 300 aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas beaucoup. Alors qu'on a d'autres espèces qui sont... qu'on a des milliers d'individus, oui. Mais ça dépend vraiment des
espèces. Et elles peuvent cohabiter entre elles, les espèces ?
Ça peut arriver, oui. Il y a certaines espèces qui cohabitent très bien. Mm-hmm. Donc, par exemple, le murin chancré, par exemple, peut très bien se mettre avec des grands rhinolophes. Le murin des capatines, il aime beaucoup se mettre avec le murin du Maghreb. C'est une autre espèce qui est un peu plus grande. Dans les grottes, elle peut aussi se mettre avec les muniotaires de Schreiber. Là, je vous donne plein de noms de chauves-souris qui paraissent un peu barbares, mais elles peuvent cohabiter. Après, il y en a d'autres qui n'aiment pas, tout simplement. Mmh. Les petits rhinolophes qu'on voit beaucoup dans les paillages ou les combles, elles aiment vraiment être toutes seules. Donc, en fait, elles ont chacune leur personnalité, chacun leur comportement, et c'est pour ça que c'est intéressant de les étudier, quoi, justement. Sinon, si on ne les connaît pas, on peut pas étudier.
À la gore, cigare,
alors Anna, parmi vos missions, il y a également celle qui concerne un petit peu l'écologie, c'est ça ? La continuité écologique pour ces chauves-souris ?
Oui, en fait, du coup, on étudie les zones de déplacement des chauves-souris et notre rôle, en fait, c'est justement d'informer sur ces zones de déplacement auprès justement du grand public, des élus et des maires pour essayer de trouver avec eux des petits aménagements, des petites... enfin, surtout les conseiller sur des petites actions simples à réaliser pour mieux prendre en compte, en fait, les chauves-souris sur leur territoire. Et aussi pour éviter que les personnes aient peur des chauves-souris.
Il y a aussi le danger de la pollution lumineuse.
Oui, c'est ça. En fait, on s'est rendu compte, là, c'est assez récemment, sur de nombreuses études, que la pollution lumineuse avait beaucoup de conséquences sur les chauves-souris. Donc déjà, de manière directe, par l'éblouissement. Mmh. En fait, ça va vraiment créer un effet barrière à leur déplacement. Et de manière secondaire, de manière indirecte, en fait, ça va créer un déséquilibre entre les différentes espèces de chauves-souris. Donc il y a des espèces de chauves-souris qui sont plutôt adaptées à la pollution lumineuse, mais c'est des espèces qui sont très communes et qui vont utiliser la pollution lumineuse pour se nourrir d'insectes, parce que les insectes vont être attirés par la lumière. Et à contrario, on a des espèces qui ont vraiment peur de la lumière, enfin que ça va vraiment les empêcher pour se déplacer sur un territoire. Et à ce moment-là, comme dans les zones noires, il n'y aura plus assez d'insectes pour nourrir ces chauves-souris-là, et là, ça va vraiment avoir des conséquences sur les populations de chauves-souris, comme c'est le cas du coup du murin de Capaci.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle, justement, pour aider ces chauves-souris?
Il y a plein de choses à faire, et Anna, elle a plein d'idées, je ne sais pas si...
Alors, Anna va développer ses idées.
Alors déjà, par rapport à la pollution lumineuse, il faut savoir qu'il y a... Déjà, l'objectif, c'est d'éclairer que ce qui est nécessaire, et donc, du coup, moins éclairer. Donc, par exemple...
Ça, c'est bien pour les économies d'énergie
oui,
aussi.
Oui, déjà, c'est ça. Et si possible, de réaliser de l'extinction. Donc, sur des périodes clés pour les chauves-souris, qui sont lorsque, justement, il y a les émergences d'insectes. Donc, en général, on préconise d'éviter d'éclairer, même si c'est assez difficile, entre 21h et 6h du matin. Même si on sait que ça peut être compliqué pour certaines communes. Mais voilà, il faut savoir aussi que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de lumière qu'on peut se sentir en insécurité. Donc ça, c'est aussi important de dire ça. Après, il faut vraiment éclairer que ce qui est nécessaire, par exemple des zones de passage piéton, quelques zones urbaines. Mais il ne faut surtout pas éclairer les cours d'eau, parce qu'en fait, les chauves-souris utilisent énormément les boisements qui sont autour des cours d'eau et les rivières pour se déplacer. Donc ça, c'est vraiment important. Et en fait, voilà, les chauves-souris, elles vont vraiment avoir besoin de linéaires de boisements pour se déplacer. Donc tout ce qui est alignement d'arbres en ville, c'est important de les maintenir noirs pour que les chauves-souris puissent les utiliser. Et donc après, il faut aussi mieux éclairer, donc éviter d'utiliser par exemple des LED bleus qui vont avoir un très fort impact sur les chauves-souris, et plutôt utiliser des couleurs orangées qui vont avoir moins d'impact. Et il faut surtout aussi faire attention au type de lampadaire qui peut être présent sur le territoire, faire attention aux lampe-boules, parce qu'en fait, les lampe-boules vont émettre énormément d'énergie, de lumière, pardon, vers le ciel, et du coup ça peut avoir beaucoup de conséquences sur les chauves-souris. Donc vraiment avoir un flux dirigé au sol et éclairer que le sol. Donc voilà, après, ce qui concerne plus sur la trame verte et bleue, donc sur vraiment la circulation des chauves-souris, ce qui est important, c'est surtout de maintenir les linéaires paysages boisés, donc tout ce qui est aire et pisylve, et s'éveiller, voilà, nous, dans notre maison, maintenir un maximum d'arbres proches de chez nous, en fait, pour que les chauves-souris viennent manger les insectes chez nous aussi, parce qu'on en a besoin. Et donc voilà ce que je peux...
dire sur la pollution lumineuse et comment on peut y remédier. Donc ça passe également donc par une sensibilisation des élus, puisque c'est les élus qui commandent l'énergie dans leur village. Donc vous êtes reçu, comment vous êtes reçu et quel est le retour que vous avez?
Pour le moment, on est aux prémices, ça commence vraiment. Donc Anna, elle a commencé un peu à parler à quelques collectivités, à quelques maires. Donc oui, il y en a certains qui sont assez réceptifs et on a pu voir ça ailleurs. Par exemple, on fait des atlas de biodiversité communale, donc certaines communes. Donc par exemple, on a déjà fait la commune de Prunier et les Diffiumoirs, où on a fait à Talonne, par exemple. Il y a certaines communes où on a déjà travaillé, ils sont assez réceptifs parce qu'ils ont déjà une démarche de préservation de la biodiversité. Il y a d'autres, malheureusement, il faut un peu plus communiquer, un peu plus convaincre, en fait. Donc, c'est un peu le but de cette étude, c'est de bien faire comprendre que ça coûte pas si cher que ça. C'est juste, c'est ça, c'est beaucoup de sensibilisation, lui faire comprendre déjà l'utilité des chauves-souris. Et il n'y a pas que les chauves-souris. En fait, on dit toujours que les chauves-souris, on appelle ça un peu des espèces parapluies. En fait, si on sauve les chauves-souris, en fait, on va sauver toutes les espèces qui viennent dessous. Donc, ça peut aussi aider les oiseaux, parce que les oiseaux aussi sont dérangés par la pollution lumineuse. Et aussi, bien sûr, tout ce qui est pollution des cours d'eau. Quand on coupe les arbres, tout va dans le sens de tout préserver. En fait, c'est tout ce qui est insectes, si on préserve les insectes aussi, ça préserve le garde-manger pour les chauves-souris. Le but, c'est de garder un équilibre. Et il faut aussi, bien sûr, souligner le fait que la pollution lumineuse, pour nous, c'est pas bon non plus. C'est très bien que les lumières bleues, pour nous, au niveau santé, c'est pas bon. On le sait, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites. Donc, en fait, ça a du sens au sens global, en fait. Voilà.
Il y a la sensibilisation aussi auprès du grand public, donc ça passe par ces nuits des chauves-souris que vous organisez régulièrement. Alors ça se passe comment, ces nuits?
Alors les nuits de la chauve-souris en général, on appelle ça des nuits 100% chauve-souris. On en a fait récemment à Bigoul, il y a eu pas mal de succès. En fait, en général, on montre notre film qui s'appelle Les ailes du maquis. Donc si jamais vous n'avez pas la chance de venir à une soirée chauve-souris, il est disponible sur YouTube, vous cherchez Les ailes du maquis, vous allez voir, c'est un très beau film qui parle des chauves-souris de la Corse et ce que fait l'association. On montre ce film, bien sûr, pour le commenter, pour être présent. Et on voit que ça attendrit quand même pas mal le public. Et on a des jolies images de chauves-souris qui vont le ralenti. Même des gens qui sont un peu convaincus de ne pas aimer les chauves-souris, ils ne sont pas neutres face à ça. Et puis après, il y a un temps de débat. Souvent, on peut faire aussi des petites conférences. En ce moment, on fait beaucoup de petites conférences sur la pollution lumineuse, justement pour ce projet Tram, pour bien parler de ça, que quand même le public soit sensibilisé aussi. Et puis, on fait toujours, une fois que la nuit est tombée, on fait une petite balade. Donc, on va aller écouter les chauves-souris à la tombée de la nuit. Donc, ça permet un peu d'aller à l'encontre et se rendre compte aussi qu'en fait, elles sont toujours autour de nous. C'est que souvent, on ne les voit pas ou on se rend pas compte parce qu'elles sont silencieuses la nuit si on n'a pas de détecteur, si on ne les entend pas. Mais des fois, si on lève tout simplement les yeux au ciel, on peut voir ces petites silhouettes en train de danser, en train de chasser. Et je trouve que ça attendrit, quoi. Ça rapproche un peu l'homme de ce qui est autour de lui. Et je me rends compte beaucoup aussi en animation scolaire. Pareil, je demande toujours aux enfants, première séance que je fais avec eux, est-ce que vous avez déjà vu une chauve-souris? Souvent, j'ai au moins la moitié de la classe qui me disent non. Une fois que je repasse en classe, ils font attention en fait ce qu'il y a autour d'eux. Ils regardent bien les oiseaux, ils regardent bien les chauves-souris. Des fois, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui vient et qui ouvre un peu les yeux sur ça. Et je trouve que c'est important quand même de continuer un peu à faire comprendre qu'autour de nous, il y a beaucoup de choses à voir en fait. La nature, elle est là. Hein. Il suffit de faire attention à elle. Et comme ça, on peut tous être présents pour essayer de la préserver ensemble.
Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm
on arrive à avoir un petit peu plus de connaissance du langage des chauves-souris. Parce que bon, il faut les écouter avec des détecteurs, vous dites, mais est-ce qu'on arrive un petit peu à percevoir un petit peu ce qu'elles disent ou comment elles communiquent entre elles?
Alors en fait, c'est pas vraiment un langage, donc c'est pas vraiment ce qu'elles disent entre elles. En fait, elles ont deux façons de parler, les chauves-souris, je dis parler, mais elles ont ce qu'on appelle des cris sociaux, donc c'est des cris qu'elles vont émettre entre elles. Donc si vous allez dans une colonie de chauves-souris, elles sont très bavardes, elles parlent beaucoup. Impossible de savoir ce qu'elles se disent, hein. c'est des cris, donc c'est vraiment c'est social, c'est leur façon de communiquer. Et puis elles ont aussi des cris, des ultrasons qu'elles utilisent pour se déplacer la nuit, donc c'est vraiment elles ont perfectionné une méthode en fait pour voir la nuit en quelque sorte. Elles émettent des ultrasons, elles écoutent les échos qui reviennent et ça les permet de se déplacer. Donc pour les étudier, on s'en est servi aussi pour le projet TRAM. On peut soit avoir un détecteur à la main et écouter les chauves-souris qui sont au-dessus de notre tête, sachant que chaque espèce a un cri différent, donc ça permet de les distinguer entre elles sans les embêter, hein. On est là avec les détecteurs, on les embête pas. Et on peut aussi poser des enregistreurs, que Anna a beaucoup beaucoup fait, surtout dans ce coin-là autour de Bastia, autour de Bigoul, même aller jusqu'à Saint-Florent. Elle a posé beaucoup d'enregistreurs justement pour montrer des zones où il y a des chauves-souris qui passent. Et comme ça, on pouvait ensuite, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est dire, ben là, il y a beaucoup de chauves-souris. Par contre, là, il y a la quatre voies, par exemple. Ou ici, on se rend compte qu'il y a beaucoup de pollution lumineuse. Et ça permet de mettre en place ce qu'on appelle des points de conflit. Et là, c'est des points qui sont prioritaires, où on peut aller voir les maires, voir les collectivités, pardon, et dire, écoutez, là, il y a des chauves-souris. Surtout, il y a une espèce qui passe. Ça peut être les capuchines, ça peut être des rhinolophes. C'est des espèces qui sont quand même hautement sensibles. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et le but, c'est pas que nous on vienne dire là, il faut éteindre les lumières, il faut voilà, on n'est pas la police, hein.
On préconise,
tout à fait, oui. Et le but, c'est quand même qu'on travaille ensemble et que les collectivités se rendent compte, de ce qu'ils ont chez eux et ce qu'on peut faire.
On peut vous retrouver, bien entendu, sur les réseaux sociaux.
Tout à fait, oui.
Facebook,
oui. Vous cherchez Chauve-souris Corse. Vous cherchez sur Instagram, @kirocorse. Là, on met beaucoup d'images, des choses des fois un peu sympas, de ce qu'on fait la nuit, parce qu'on va beaucoup dehors la nuit, on fait des captures. Et aussi, on a un site internet, bien sûr, chauvesouriscorse.fr.
Il y a beaucoup de gens qui vous appellent justement pour avoir des renseignements ou pour demander des conseils, Anna?
Par rapport au tram?
Oui, par rapport au tram et aux chauves-souris en général.
Oui, on a un numéro justement sur notre site internet qui s'appelle aussi... on a un pôle SOS chauves-souris
voilà, oui.
qui permet justement de conseiller les personnes en cas justement de présence de chauves-souris chez eux, comment les orienter. Et aussi s'il y a des chauves-souris qui sont blessées, on récupère des petites chauves-souris blessées pour ensuite les soigner et puis après les relâcher dans leur état naturel.
Pour rassurer les gens, les chauves-souris n'attaquent pas
ça.
Les hommes.
Oui, aussi
oui,
pour
c'est
ça.
C'est beaucoup ça, oui.
C'est ça,
oui,
hein.
On aussi. A fait des appels, oui, des gens, ils ont un peu peur, ils ne savent pas trop quoi faire. Et surtout quand on est en colonie à la maison, oui, des fois ils sont un peu paniqués ou des fois ils peuvent être un peu fâchés aussi, ce que je peux comprendre, quand on se rend compte qu'on a une grande colonie à la maison. Et en plus, quand les jeunes, ils commencent à être grands, là, c'est un peu la période en ce moment. Mi-août, ça va commencer à être la période où les jeunes, ils sont grands. Donc là, déjà, la colonie a doublé de taille, sachant qu'une femelle, elle a un seul petit chaque année. Mais une fois que chaque femelle a eu son petit, ça fait doubler la taille. Elles sont un peu bavardes, elles font un peu de bruit. Et des fois, ça peut être un peu embêtant. Donc du coup, nous, on est là, bien sûr, là pour bien sensibiliser. Faire comprendre que des fois, il faut un petit peu de patience quand même, que la colonie va se disperser naturellement à la fin de l'été. Puis voilà, puis nous on est toujours là pour conseiller, bien sûr.
Kate, merci. Anna, merci beaucoup d'être venue parler donc de des chauves-souris. Et puis on se tient au courant, bien entendu, pour ce projet TRAM dont on pourra peut-être suivre l'avancement au fur et à mesure des mois. Merci à Auguste qui était à la technique.
Sure.
L'invité de la semaine au micro de Philippe Jam. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsica International.